Interview.
2 jours.
Bonjour, je suis en compagnie ce matin d'Alain Gigandet qui, vendredi dernier, donc le 24 novembre, dans le cadre des rencontres de Luc, nous a donné une conférence fort intéressante que vous pourrez écouter dans les minutes qui vont suivre cet entretien. La conférence et le titre de la conférence, très particulièrement, était « Sagesse et vertu, le radicalisme éthique des stoïciens ». Le nom d'Alain Gigandet ne vous est pas étranger puisqu'il est déjà venu au mois de mars nous parler des épicuriens. Voilà, donc c'était une deuxième rencontre qui s'est fort bien passée et qui a passionné les nombreuses personnes présentes. Je vous propose, dans cet entretien, et je propose à Alain de mieux faire connaissance avec lui, parce que ça commence à être quelqu'un qui compte dans le paysage d'Iowa. Je sais qu'il a une approche du territoire très favorable, si je peux m'exprimer ainsi. Et bah, donc, faisons connaissance. C'est quand on commence à avoir une certaine intimité, si je peux me permettre, il est toujours intéressant de savoir d'où vient ou d'où viennent ceux que nous avons en face de nous. C'est qui Alain Gigandet et d'où vient Alain Gigandet?
Alors la question « qui es-tu » est une question évidemment qui chatouille et qui démange le philosophe tout particulièrement. Et on a presque envie de répondre, de taper en touche et de répondre comme « je ne sais plus qui, qui suis-je hein ? Je ne connais même pas l'heure de ma mort, comment voulez-vous que je vous dise qui je suis ?» Mais je vais plutôt te parler de ma naissance, comme on fait traditionnellement, sans originalité, parce que bon, ce sont évidemment des choses qui nous marquent et dont les effets perdurent, même parfois de façon un peu tortueuse, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc je suis pied noir, en réalité. Je suis né à Casablanca, au Maroc, d'une mère qui était elle-même née au Maroc dans les années 20. Mes grands-parents maternels, j'insiste sur ce point, on y reviendra, étaient donc des paysans limousins qui étaient venus s'installer au Maroc juste après la guerre de 14, en 1919 ou 1920. Ma mère était née en 1923, c'était l'aînée de la famille. Et ben, mon grand-père était venu au Maroc parce qu'en Limousin, il n'avait pas assez de terre pour vivre décemment. Et il espérait, au départ, il était déjà venu faire une première visite avant la guerre, donc dès 1912, au moment où les Français s'installaient. Et donc, après la guerre, il s'était marié et il était revenu. Mais il n'avait pas assez d'argent pour acheter des terres, donc il travaillait au service d'un propriétaire français, colon, qui lui vivait à Casablanca. Je me souviens de la ferme où nous allions les week-ends avec mes parents. C'était impressionnant, c'était une maison extrêmement austère, il n'y avait pas d'électricité, l'eau montait avec une éolienne et alimenter d'abord les abreuvoirs pour les bêtes avant la maison elle-même. Et c'était, on peut dire, enfin, à un Européen qui habite de ces paysages domestiqués, on peut dire que c'était une maison comme ça posée au milieu d'un champ de cailloux et qu'il fallait y vivre, y élever du bétail. Les vaches de mon enfance ne sont pas les vaches normandes. Et voilà, c'est important pour moi parce que j'ai pris très tôt conscience, j'ai eu de ce que c'était que la vie rurale, avec sa dureté, puis avec son importance, sa beauté aussi. Je me souviens des crépuscules sur ce champ de cailloux. Puis le contact avec des gens, mon grand-père était quelqu'un d'austère qui passait sa vie à travailler. Et ma grand-mère était entre les quatre murs de sa cuisine à se battre contre les mouches Il n'y avait pas d'électricité, pas de frigo, il fallait faire la nourriture, tout ça. Elle avait un dispensaire pour s'occuper un peu des femmes et des enfants, des ouvriers agricoles qui travaillaient là. Enfin, c'est tout un style de vie qui m'a marqué. Et j'ai jamais perdu le contact avec les choses rurales en particulier.
Dans quel lieu ?
Alors c'était la plaine de la Chaouia, c'est-à-dire la plaine qui s'étend le long de la mer au sud de Casablanca. Voilà, quand on va vers Settat et Marrakech. Pas très loin de Casa. Voilà pour mon côté maternel. Et le côté paternel, c'était des pieds noirs algériens. Mon père était natif d'Alger. Mon grand-père paternel était donc un officier de carrière. Lui-même fils d'officier. Je sais que mon arrière-grand-père était mort au Tonkin pendant les campagnes de Jules Ferry. Mais j'ai retrouvé dans une maison de famille que nous avons en Dordogne, que mon grand-père avait acheté pour sa retraite, j'ai découvert des carnets tenu par un ancêtre donc, qui avait fait les campagnes de la Révolution française. Puis il avait été donc rétrogradé, classé demi-solde sous l'Empire, et il avait fait les campagnes napoléoniennes comme demi-solde. Donc cette tradition familiale militaire qui fait qu'on perd les origines de la famille du côté paternel. Quant à ma grand-mère paternelle, elle faisait partie de la bonne bourgeoisie algéroise coloniale. Donc elle était née en 1890, mais je crois que l'installation de sa famille remontait aux origines de la colonisation en Algérie vers 1840. Quoi.
Alors ton histoire commence là-bas. Ta scolarité, puisqu'on arrive un petit peu, on progresse dans l'âge, ta scolarité se fait sur ce territoire, l'école primaire Tu as des souvenirs de cette époque?
Oh, j'ai des souvenirs très précis. On habitait un quartier à Casablanca, le quartier où habitaient mes parents quand je suis né, était un quartier assez populaire, petit blanc, de petits artisans, de commerçants, d'origine souvent italienne ou espagnole. L'école primaire, je m'en souviens très bien parce qu'il y a une circonstance qui est particulière. Mon grand-père, qui était à la retraite à partir de 1950, venait de France, venait nous passer plusieurs mois d'hiver à Casablanca, évidemment, on le comprend. Et il m'avait appris à lire. Il avait vu que très tôt, je devais avoir entre 3 ans et 4 ans. Il avait vu que je faisais semblant de lire, j'attrapais les journaux, je les tenais à l'envers, etc. Mais je faisais semblant de lire, il s'était dit qu'il devait y avoir une envie. Effectivement, il avait acheté un livre de lecture, il m'avait appris à lire et j'avais appris facilement. Donc à 4 ans, je savais lire. Et donc quand je suis rentré à l'école maternelle, j'étais complètement décalé. Si bien que même on m'a fait accéder directement en cours préparatoire. Où là, d'ailleurs, la maîtresse me collait avec un bouquin au fond de la classe pendant les cours de lecture. L'écriture, c'était moins facile. Je me mettais de l'encre, on écrivait à l'encre violette et aux plumes sergent-major. Hein, c'était donc, tu vois, là, vers... ça se passait en 1953-54, quelque chose comme ça. Peu de temps avant l'indépendance du Maroc, finalement, mais... À cette époque, on ne pensait pas trop à ça. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y avait des jeunes dans ce quartier qui étaient organisés en bande, souvent dans les quartiers populaires. Et il y avait une ambiance... Enfin, moi, je sais que je n'étais pas toujours tranquille dans la cour de l'école. Il y avait de la violence. J'étais plus petit, plus jeune. Donc, il y avait des leaders, des petits chefs. Je me souviens que pour sortir de l'école, pour éviter les attaques, enfin, où il paraît, on se regroupait à deux ou trois copains. Un de mes copains était un Vietnamien, le fils d'un propriétaire d'un petit restaurant vietnamien là, qui, dans l'avenue qui menait vers l'océan en bâtiment. Enfin voilà, ce sont des souvenirs qui marquent parce que c'était pas une atmosphère de beau quartier quoi, du tout. Voilà. Plus tard, ça c'est devenu beaucoup plus calme parce que mon père a fait construire une villa. Et donc, j'allais dans une école de gens plus aisés, dans une école primaire, bien sûr, publique, mais où le public était, disons, socialement plus classe moyenne. Et ça se passait bien, j'étais un bon élève, hein, donc tout se passait assez bien. Plus tard, Donc, à 10 ans, je suis rentré au lycée, puisque à l'époque, la distinction collège n'existait pas. Le lycée allait de la 6e à la terminale. Et donc, c'était un lycée assez connu, assez réputé. C'était le lycée Lyautey de Casablanca, où j'ai fait pareil. J'étais, un bon élève. On avait une formation très, très classique. Alors, inutile de te dire que dès tout petit, j'étais devenu très vite un lecteur insatiable. Et bien sûr, alors mes professeurs appréciaient ce côté. Oui, en sciences, j'étais un élève honorable. Sans plus, j'avais pas trop de goût pour les disciplines plus scientifiques. J'aimais beaucoup la culture physique et la gymnastique.
Une aparté, à quoi rêvait Alain Gingandet quand il avait 12-13 ans? Comme tout enfant, pompier, gendarme, militaire, est-ce que la carrière, d'embrasser la carrière militaire qui était celle de ton père, est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit?
Alors justement, mon père n'était pas militaire. Mon père avait commencé comme cavalier, comme était mon grand-père, donc il avait fait le cadre noir de Saumur, etc., avant la guerre. Mais je pense qu'il n'avait pas la fibre militaire de la famille, il adorait les chevaux, etc. Et la guerre de 39, donc, lui a fourni l'occasion. Je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est une très longue histoire qui a un intérêt qui est assez intéressante en elle-même, mais ça nous mènerait beaucoup trop loin. Mais enfin, voilà, la guerre a été pour lui l'occasion de quitter l'armée. Mon grand-père était prisonnier, quelque part en Prusse orientale ou en Poméranie, où il est resté pendant les 5 ans de la guerre, mais mon père a échappé à la captivité. Et c'est comme ça que d'ailleurs, après des pérégrinations, qu'il s'est retrouvé au Maroc. Alors que la France, pendant que la France était occupée, voilà, et où il a pu rencontrer ma mère. Mais mon père, donc, s'était trouvé un emploi civil. Il travaillait, il s'occupait de problèmes juridiques à la régie marocaine des tabacs, à Casablanca. Voilà. Et moi, par rapport à la chose militaire, je sais pas, je trouvais, bon, j'avais un rapport très très intime avec mon grand-père, je l'admirais beaucoup, mais je le trouvais quand même déjà un peu autoritaire et je pense que j'avais une certaine distance par rapport à l'armée et aux choses militaires. Bon, je sais pas. J'ai été tenté par la marine, en réalité. Voilà. Le premier roman que j'ai lu, j'avais 5-6 ans, c'était L'île au trésor de Stevenson, qui est un grand livre. Encore aujourd'hui, et l'océan était là à Casa. Hein, l'océan était partout. Il était en bas de l'avenue qui passait chez nous. Évidemment, le week-end entre le mois d'avril et le mois d'octobre, on était au bord de la mer. On faisait du bateau quand l'occasion se présentait. Tout ça, il y avait le port à Casa. On allait acheter du poisson avec ma mère. La mer était là et j'étais fasciné par les bateaux. Et à une époque, j'aurais bien été officier de marine, marchande ou truc, je sais pas, je sais pas. Et puis, quand j'avais 12-13 ans, on m'a dit que j'étais vraiment pas assez bon en maths pour faire ce genre de carrière. Bon, j'en ai fait mon deuil.
Donc, ne pouvant pas être marin, donc n'étant pas matheux, pourrions-nous dire, est-ce que les études littéraires se sont imposées à toi ou en te disant, on va parler de la philosophie puisque tu finiras par être philosophe, mais est-ce que, bon, la philosophie, est-ce que c'était déjà quelque chose qui était enseigné? Je ne pense pas, mais je dirais que dans ton parcours tel qu'il est en train de se dessiner je dirais, le secondaire, qu'est-ce qui, d'un seul coup, fait que la philosophie va presque s'imposer à toi? Est-ce qu'elle s'impose à toi, d'ailleurs?
Alors, effectivement, la philosophie ne voulait pas dire grand-chose. À cette époque-là, quand j'étais en 6e, 5e, 4e, au lycée Lyautey, je voulais juste préciser une chose, j'étais un bon élève, mais je n'étais loin d'être un élève modèle. J'étais un élève qu'on appelait à cette époque dissipé, c'est un mot qui fait sourire aujourd'hui. Voilà, j'étais bavard. Voilà, je crois que j'avais une certaine résistance à. Je voulais juste préciser un point qui me semble intéressant. J'avais une résistance claire, d'abord au monde des adultes, quand même, et qui n'était pas. Enfin, l'ambiance dans la famille, elle ressemble moins à ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein, les personnes qui sont nées dans les années 50 ou avant voient de quoi je parle, surtout les garçons. C'était assez autoritaire, assez rigide, hein, à la maison. on riait pas tous les jours. Et j'en avais conçu l'idée qu'il fallait un peu se tenir à l'écart du monde des adultes, avoir sa bulle, etc. Mais en même temps, j'étais un peu frondeur. Et ça me semble significatif de quelque chose. J'écoutais les professeurs, surtout quand ça m'intéressait, j'en tirais mon profit, mais en même temps, je bavardais, il y avait une forme de résistance, je pense, inconsciente d'elle-même, à l'institution et choses. Et alors, ça me paraît significatif de quelque chose. C'est-à-dire que je crois qu'à cette époque, je n'étais pas le seul, hein, on pouvait très bien développer. Alors, plus tard, une critique même consciente à l'égard de l'autorité du prof, à l'égard de sa personnalité, pour laquelle on pouvait ne pas avoir d'estime, hein, être pendant à faire des caricatures, nous moquer d'eux, etc. En revanche, dans l'ensemble, on respectait le savoir dont ils étaient porteurs. C'est-à-dire je pense qu'on avait, moi, mes camarades, etc., l'intuition que ce qu'ils nous transmettaient avait de la valeur indépendamment de eux, ce qu'ils étaient. Tu vois? Et je me demande si après 68, après, etc., il n'y a pas eu une inversion de ce rapport. C'est-à-dire que, au fond, les profs peuvent éventuellement devenir intéressants en tant que personne, mais pas du tout en tant que dépositaire d'une autorité, etc. Et en revanche, ce qu'ils racontent, ça a peu de légitimité parce que on le trouve beaucoup plus facilement sur Internet ou ailleurs, avec beaucoup plus d'autorité. Hein, si ça vient d'Internet, c'est beaucoup plus sûr que et certainement plus vrai que ce que le prof a pu raconter. Enfin, tu vois, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a un problème du rapport au savoir dans le cadre de l'école, etc., qui a quand même profondément changé et qui est quelque chose qui peut-être me plaît pas trop. C'est pour ça que j'en parle.
Je comprends très bien, tu es allé en amont, mais revenons à la trajectoire qui va t'amener sur ce que tu es ou ce que tu as été pendant de nombreuses années.
Alors j'aimais effectivement les lettres, j'adorais la littérature, j'ai fait du latin, etc. Et ça me plaisait, tout ça me plaisait. Je lisais à la maison parallèlement. Et en sciences, bon, je faisais ce qu'il fallait, mais c'est vrai que j'avais pas de. C'est grâce à la philosophie, beaucoup plus tard, que j'ai compris la valeur de la connaissance scientifique et le prodigieux intérêt que ça avait, pas seulement les résultats de la science, mais la façon dont on les obtient. Voilà, bon. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai 13-14 ans, mon père doit céder son poste dans le cadre de l'indépendance du Maroc et de la marocanisation progressive des cadres. Mon père doit former son successeur marocain, céder son poste, donc à abandonner son poste à la régie marocaine des tabacs, et il est reclassé donc en métropole à Bordeaux. Donc dans l'administration des impôts. Voilà. Ma mère, par ailleurs, qui était professeure d'arabe au lycée de jeunes filles de Casablanca, est reclassée dans l'éducation nationale aussi, de la même façon. Et donc nous voilà arrivés à Bordeaux, pas complètement en terre inconnue, puisque mon grand-père et ma grand-mère passaient leur retraite à 75 km de là, donc près de Sainte-Foy-la-Grande, et on venait les voir l'été, au moins une fois sur deux. Mais enfin, bon. Nous voilà en France, chez les Français, comme on disait. Ça a été une transplantation un peu difficile. Donc je rentre au lycée Montaigne de Bordeaux, aussi un bon lycée, quand j'étais en troisième. Et là, en effet, le cadre de l'institution devient plus pesant, et puis tu imagines bien que le cadre tout court est moins riant. C'est une nouvelle vie. Et je pense que là, les études, et en particulier les études littéraires, vont être une forme de résistance, de résilience pour moi, justement, à ce changement de vie. Puis j'ai perdu mes copains, voilà, le face-à-face familial est plus resserré, l'adolescence est là, avec ses problèmes. Tout ça pour te dire que, donc, j'arrive en terminale, au lycée Montaigne, je tombe sur un prof extraordinaire, je donne son nom, hein, mais il est encore en vie, je le vois encore à Paris de temps en temps, il s'appelle André Pessel, et pour moi ça a été un véritable Socrate. C'est-à-dire que je suis arrivé là, on avait combien? 8 heures de philo par semaine, quelque chose d'extraordinaire, et c'était tout d'un coup une révélation. Enfin, tout d'un coup, je me sentais plus chez moi dans la salle de classe de philo qu'à la maison. Et tout d'un coup, un autre monde notre monde s'ouvrait devant moi. Maintenant, quand je regarde ça avec le recul, je pense qu'une des premières choses qui, dans la philo, m'a fasciné, c'est la possibilité de mieux maîtriser, au fond, justement, ce que j'étais. Je reviens à ta question de départ. Comment et pourquoi ça se passait comme ça se passait pour moi qui à l'époque avait 16 ans, hein. Les difficultés à être, justement, les rapports avec mon père qui n'étaient pas faciles. Tout d'un coup, j'avais des instruments pour comprendre ça, mieux le comprendre, m'y retrouver, prendre une prise, un certain pouvoir sur tout ça. Et je crois que ça a été une sorte d'exultation de découvrir ça, même si tout ça, avec le recul aussi, se faisait sur la base de tout un ensemble de malentendus, de méconnaissances. Hein, c'est toujours pareil.
On est en quelle année, là ?
À la rentrée 1964. Et, bon, évidemment, comme je disais, bon, toute projection de lumière suppose aussi une part d'ombre, hein, et cette part d'ombre... Elle était là, je l'ai mieux comprise plus tard, au prix d'autres obscurités et opacités. Enfin, il s'est passé quelque chose de très important. Et il s'est passé quelque chose parallèlement de très important aussi, je dirais, sur le plan de la formation de ma conscience politique. Parallèlement, en même temps que la philo. Dans la philo, et aussi à côté. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais un petit pied noir. Bon, la guerre d'Algérie était tout près, etc. J'ai pas besoin de m'apesantir, mais dans la famille...
Ça avait été quelque chose d'important, le fait que l'Algérie, la guerre d'Algérie, que l'Algérie devienne algérienne, c'était quelque chose qui avait... Il y avait des discussions fortes à la maison sur le sujet.
Un véritable traumatisme pour mon grand-père et mon père qui était né, qui était là-bas, etc., et qui ne pouvait pas accepter ça. Ils avaient la position des pieds noirs moyens, je veux dire, hein, là-dessus, ou la position moyenne du pied noir. Là-dessus, ils n'acceptaient pas ça. Donc, sans... En ce qui concerne mon père, en tout cas, etc., sans approuver les violences extrêmes de l'OAS, etc., ce qui s'est passé, ils étaient quand même catastrophés par les accords d'Évian et l'indépendance. Mon grand-père, qui était quand même, qui avait un caractère assez extrême et tenait des discours qui étaient radicaux, dirons-nous, et... qui engendrait chez moi la perplexité. C'est-à-dire que d'une certaine façon, j'adhérais à ce qu'il disait, au sens où moi aussi, j'avais cette idée, j'avais le Maroc comme un paradis perdu, enfin, donc ça, c'était pas bien. Il y avait le racisme derrière, hein, dans lequel on avait été quand même beaucoup élevé. Enfin, élevé, non, mes parents nous ont jamais tenu des discours racistes ou des discours de discrimination à l'égard des Arabes. Ma mère était prof d'arabe, etc. Enfin, il y avait une... Mais c'était un bouillon de culture. Il y avait des ségrégations de fait, il y avait tu imagines bien que les enfants, tu sais comment ils sont, ils se regroupent façon clanique, tu imagines bien ce qu'on pouvait se dire les uns les autres, et même parfois des épisodes un peu violents, hein, donc les Arabes, les Français, etc., c'était aussi ça. C'est aussi le décor, hein, de fond de mon enfance. Donc tout ça, ça ne produit pas des choses formidables quand elles commencent à être phrasées, qu'on essaie de leur donner une cohérence. Voilà. Donc j'en étais là. C'était très... D'un autre côté, j'avais découvert Albert Camus quand j'étais en seconde, en première. Et ça avait quand même ébranlé des choses en moi. Ça avait donné une autre approche. Toujours dans l'ambiguïté, parce que Camus lui-même était sur ce point ambigu, hein, à son corps défendant. Mais enfin, je pense que ça avait fait naître le besoin en moi de comprendre mieux, d'être moins affectif là-dessus, de comprendre mieux et d'élever un peu le débat, si tu veux. Et alors là, évidemment, les instruments philosophiques ont... Enfin, pour le dire très simplement, j'ai découvert en philo Karl Marx, la notion de révolution et toutes ces choses. Et donc, je suis devenu garçon de gauche, ce qui ne facilitait pas les conversations à table à la maison, j'aime mieux te le dire.
Engagé dans des jeunesses progressistes, socialistes ou communistes ?
Non, je ne me suis pas engagé parce que justement, j'ai, dans une organisation, il m'est arrivé de me solidariser, bien sûr, avec des... donc ponctuellement, à cours d'événements, parfois violents, etc., manifs et compagnie, mais je gardais le recul du philosophe par rapport, tu vois, à l'engagement institutionnel, au fait de faire allégeance à vraiment un type d'idéologie trop dogmatique. Il faut dire qu'à l'époque, justement, philosophiquement, le contexte, c'était la discussion du marxisme. Dans quelle mesure le marxisme est une philosophie, qu'est-ce qu'il y a en lui d'irremplaçable, mais aussi quelles sont les dimensions critiquables, etc. Et encore, je ne connaissais pas les meilleurs textes à cette époque-là. Je le dis de façon toute partisane, pour moi, maintenant, aujourd'hui, en 1950-60, les meilleurs textes de réflexion là-dessus qu'on pouvait avoir en France, c'était par exemple la revue Socialisme ou Barbarie, les écrits de Lefort, de Castoriadis, qui avaient été très très loin dans une réflexion, mais une réflexion d'extrême gauche, critique sur Marx, le marxisme, sans parler de la critique évidemment du socialisme réel en URSS. Si j'avais connu ça quand j'avais 17 ans, je crois que ça m'aurait structuré de façon plus nette. Mais enfin, voilà. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, un peu plus tard aussi, c'est que dans la foulée, j'avais plusieurs amis qui étaient des fils d'émigrés espagnols de la guerre d'Espagne. Il y en avait beaucoup à Bordeaux. Avec certains, j'avais des rapports d'amitié étroites, comme on est amis dans l'adolescence, tu sais, avec cette effervescence. Et ils m'ont ouvert aussi à la pensée libertaire et à l'anarchisme. Et ça m'a marqué aussi, progressivement, parce qu'on s'achemine vers mai 68, là, hein, lentement mais sûrement. Progressivement, à 18, 19 ans, j'étais donc très proche de ce qu'on appelait l'ultra-gauche, hein, l'extrême-gauche anti-autoritaire, révolutionnaire, mais conseilliste, tu vois, qui critique le léninisme, la direction du parti, les rapports du parti et de l'État, tels qu'ils ont été, théorisé par Lénine et par Trotsky. J'étais plutôt dans cette mouvance, autogestionnaire et anti-autoritaire.
Donc, comme tu le disais, 68 arrive, tu es toujours étudiant, les premiers mouvements sur Paris, tu en es partie prenante ou tu regardes ça de loin ?
Alors, voilà ce qui se passe en 68, je suis à Paris. Pourquoi ? Depuis l'automne 67. Pourquoi ? Parce que après le bac, donc mes profs m'ont orienté, et on m'a pas tellement demandé mon avis, vers l'Hippocagne, donc de Bordeaux, c'est-à-dire vers la préparation du concours d'école normale supérieure. Et donc des études exigeantes, difficiles, où on garde le côté pluridisciplinaire, contrairement à la fac, c'est-à-dire que j'ai pas fait que de la philo, ce qui était un peu mon regret. D'ailleurs, j'aurais voulu passer tout mon temps à faire de la philo. Bon, j'ai continué à faire, évidemment, de la littérature, de l'histoire moderne et ancienne, enfin tout ça, du latin, de l'allemand, de l'anglais, tout ça. Bon, évidemment, c'est une formation irremplaçable, hein, parce que, et même pour la philosophie se nourrit de tous les savoirs, si tu veux, qui ne sont pas elle, hein, c'est sa substance, en fait. Donc ça a été très bien en truc. Bon, voilà, je fais l'Hippocagne, puis la Cagne, je passe le concours depuis Bordeaux, le concours d'école normale, je suis admissible, mais je me fais coller à l'oral. Bon, donc là on est en juin 67, ça me donne l'occasion de partir de Bordeaux et de m'inscrire au lycée Louis-le-Grand à Paris, qui, évidemment, écrème les étudiants des quatre coins de France qui ont des chances de rentrer à l'école. Voilà. Bon, c'est très injuste parce que ma formation, je la dois à mes professeurs de Bordeaux, mais c'est Louis-Cyr Grand qui recueille dans les statistiques le bénéfice de tout ça. Bon, passons. À l'automne 67, me voilà à Paris. Je vis dans une chambre de bonne dans le 16e arrondissement, parce que j'ai un oncle et une tante qui est en appartement là, donc j'ai ma chambre de bonne, c'est... Je ne m'appesantis pas, mais c'est merveilleux. Hein, je suis enfin seul, mes bouquins, Paris, enfin bref. Et la politique, bien sûr. Donc, dès l'automne 67, il y a des grandes manifs contre la guerre du Vietnam. Je découvre les groupes, les Mao, les trotskistes, etc. Bon, moi, je reste conseilliste, mais je découvre de la littérature là-dessus. Je découvre les revues de l'International Situationniste. révélation.
Précise un petit peu l'international
situationniste. L'international situationniste, c'est Guy Debord, c'est Van Eghem, c'est cette scission de l'international lettriste dans les années 50 qui va s'orienter vers une réflexion révolutionnaire, une pratique révolutionnaire qui a pour pivot la transformation de l'art et de la création artistique en levier de la révolution, avec cette idée quand même passionnante que si révolution il doit y avoir, c'est une révolution totale, non seulement des rapports de production, mais des rapports sociaux, de l'art, de nos décors, de l'architecture. Il faut repenser entièrement, dans un sens d'émancipation, tout le cadre de la vie quotidienne. C'est la révolution de la vie quotidienne. Les situationnistes sont vraiment les gens qui ont été le plus loin dans cette idée, qui aujourd'hui nous paraît assez classique, mais à l'époque, par exemple, un marxiste, un jeune communiste, ou même un maoïste, un trotskiste, il trouvait que c'était des extravagances, ça. De petits bourgeois qu'il fallait combattre à tout prix, alors que pour moi, mes camarades, c'était... on réinventait la révolution, quoi. Voilà. Et alors, tu vois, le coup de mai 68, à qui ça donne raison? Bah, à nous. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Oui, un mouvement d'abord de révolte, on s'empare de notre territoire, c'est-à-dire le quartier latin, et qu'est-ce qui fleurit? Des slogans, des fresques, de la poésie dans la rue, l'expression populaire spontanée, enfin des trucs, l'Odéon, hein, la prise de parole. J'avais l'impression de vivre un rêve éveillé. Bon. Et puis sur ces entrefaites, la grève qui commence, et la grève non commandée par les syndicats, les jeunes ouvriers, etc., qui commencent à mettre les usines à grève, à les occuper. Donc, tu vois, le vieux fantasme de la grève générale, hein, des syndicats anarchos de la fin du 19e siècle en Europe, de la CNT espagnole en 36. Bon, une folie. Voilà. Et je revois Pécel, qui entre-temps, mon gourou, donc mon maître, mon Socrate, disons, qui était très fier de moi d'ailleurs, puisque j'avais fait quand même des brillantes études, etc. Et je le rencontre à Paris. Il était prof en Cagne à Dijon, c'était pour que on se revoit à Paris. Il commence à me dire, tu sais, la révolution, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où la pratique prend le pas sur la théorie. Et où la pratique, tout d'un coup, est plus en avant que ce que la théorie croyait pouvoir anticiper. Donc, tu penses, ces paroles tombent du ciel. Voilà, enfin, c'était une époque formidable, suivie aussi d'une formidable désillusion, enfin, la reprise en main de l'État, les élections de juin 68, tout ça, c'est difficile à vivre. Je suis complètement coupé de ma famille, je n'ai plus envie de les voir, voilà, et puis il y a évidemment les histoires amoureuses qui sont chassées. Enfin, voilà, c'est une période de d'ébullition qui marque pour la vie, je crois, vraiment.
Donc, agrégation?
Non, école normale supérieure. Parce que le concours, évidemment, n'a pas lieu en juin 68, mais. Il est le ministère organise donc la session 68 du concours à l'automne, là vers la fin du mois de septembre. Donc il retrouve, on avait déposé des dossiers de candidature, donc il retrouve les gens, il les reconvoque et le concours a lieu. Et donc cette fois-ci, je suis reçu et j'intègre l'école donc avec un petit peu de décalage par rapport aux promotions précédentes, c'est-à-dire vers le mois d'octobre 1968, dans une promotion qui comportait des gens comme Bernard-Henri Lévy, etc. Enfin, je parle de Lévy parce que on s'est retrouvé dans le groupe des nouveaux arrivants philosophes à l'école. Donc tu vois, on n'était pas très nombreux, ça fait 7-8 étudiants. Bon, ça tombe. Bon, alors l'école normale supérieure, c'est encore un autre monde. Bon, d'abord, tu deviens un adulte, institutionnellement, c'est-à-dire que tu deviens fonctionnaire stagiaire, tu es salarié, tu ne touches pas un gros salaire, mais c'est quand même un gros salaire parce que tu es logé à l'école à moindre frais, hein, c'est le truc. Tu es nourri, tu es blanchi, pas gratuitement, bien sûr, on te retient des choses comme ça, mais enfin, t'imagines bien que... Donc il reste quand même de l'argent pour des jeunes gens. Ça permet d'acheter des livres, ça permet de faire des voyages, enfin, c'est des trucs extraordinaires, éventuellement d'aider des copains qui sont dans la dèche, enfin, c'est... Tu vois, on trouve une assiette sociale, et puis évidemment, je deviens complètement indépendant par rapport à ma famille, donc à 20 ans. Hein.
Petit aparté, puisque tu parlais de 68, l'importance, est-ce que les philosophes français, je dirais, des années 60, Foucault, Derrida, celui qui m'échappe à l'instant où je parle, Althusser, enfin, mais même Derrida, Foucault, est-ce que c'est des gens qui sont des gens avec lesquels tu sens des affinités au niveau de l'analyse politique ou l'analyse sociale?
Oui, alors justement, quand je suis arrivé dans la cagne de Louis le Grand à l'automne 67, j'ai découvert que mes compagnons de route, mes condisciples, on était quand même des classes de 40 élèves, étaient hyper plus avancés que moi dans les lectures, l'actualité philosophique et politique. Là, j'étais le petit provincial complètement complexé. Complexé, je ne l'étais pas excessivement, mais enfin, tu sais, il connaissait Barthes, il connaissait les débats les plus brûlants concernant le théâtre avec Genette, tout ça. Enfin, bon, moi, j'étais là. Et il connaissait, par exemple, les textes d'Althusser, que je ne connaissais pas, moi. Bon, ou d'autres, ou les premiers articles de Derrida. Bon, donc Foucault, je connaissais un petit peu l'histoire de la folie, j'avais découvert ça à Bordeaux. Mais il y avait, là aussi, il y avait un bouillon de culture, il y avait une ébullition. Hein. Alors, ce qui s'est passé, si tu veux, là aussi, l'école est le fil rouge pour moi, parce que qui étaient mes professeurs de philo à l'école? C'était Althusser, Derrida et Bernard Potrat, qui était tout jeune, hein, qui avait 24 ans, qui était assistant. Donc là, ben, on se trouvait jeté de toute façon au milieu de la piscine, hein, quand on voulait faire des études philosophiques et qu'on rentrait à l'école. Si tu prends les personnalités, ils ont eu des attitudes un peu, tu vois, ambiguës. Ambiguës, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais ça n'a pas été un engagement franc et massif, hein, pour 68. Ni Foucault, qui à l'époque était réputé apolitique, hein, après les mots et les choses, 66. Ni Derrida, qui se tenait quand même dans une certaine réserve par rapport à tout ça, qui était quand même très très spéculatif, il avait certainement une sympathie. Ni Althusser, qui était tenu par le Parti communiste, tout en ayant alimenté par ses écrits les scissions maoïstes, qui était dans une position extrêmement ambiguë. Tous ces gens, Barthes, n'étaient pas très... s'impliquer dans ce contexte. Je pense que tous ces maîtres, si tu veux, ou je pense à Gilles Deleuze aussi, tout ça, des gens que j'ai beaucoup admirés d'ailleurs, hein, et qui ont été des professeurs extraordinaires, je pense que tous ces gens, ils étaient de gauche, si tu veux, comme ça. Ils étaient porteurs d'une modernité, d'un certain avant-gardisme même auquel ils tenaient. Mais enfin, vous voyez pas très bien comment, je pense, s'insérer sans réserve dans un mouvement comme celui-là, avec des slogans aussi ravageurs pour l'institution universitaire, « Professeur, vous nous faites vieillir », ou des choses comme ça, plus l'ouvriérisme aussi, hein, de cette époque. Je pense que, voilà, tu vois un peu, ils cultivaient une prudente réserve quand même. À ce sujet-là. Après 68, il y a une décantation qui va se faire. Foucault va s'engager, hein, très directement. Althusser, de toute façon, il est handicapé par de terribles problèmes psychologiques, par la maladie. Hein, et puis, il va avoir de plus en plus d'ennuis à l'intérieur du Parti communiste. Deleuze va s'engager aussi, beaucoup plus précisément parce qu'il va, Deleuze, sa philosophie même va évoluer, si tu veux, vers une politisation. Tu as raison de me poser cette question. 68, il y a aussi un coup de pied dans la fourmilière universitaire, et après, il y a des destins particuliers qui vont se déterminer à partir de là. Oui.
On conclura peut-être sur cet premier engagement, et en tous les cas, tu vas enseigner. Bien entendu, et on finira peut-être là-dessus. Premier écho de cette première année d'enseignement. puisque tu arrives après 68 déjà, par exemple, que tu l'évoquais précédemment.
Donc après les concours, hein, je pars de l'école normale supérieure sans aucun projet universitaire, contrairement à un certain nombre de mes camarades. Moi, j'ai envie d'être prof de terminale, parce que pour moi, la philosophie, si tu veux, c'est l'enseignement en terminale que j'ai eu, qui m'a ébloui, et au fond, j'ai envie de ça, de cette expérience. Les premiers stages que je fais, si tu veux, dans la région parisienne, me confirment là-dedans. Ça, je me sens bien devant les élèves. D'ailleurs, mes tuteurs pédagogiques me le confirment. Ils trouvent que bon, ça va bien. Et voilà, je suis nommé. Sans l'avoir vraiment demandé, je suis nommé à Nérac, dans le Lot-et-Garonne.
Retour aux sources ?
Oui, si l'on veut. Enfin, je ne connaissais pas cette région du Sud-Ouest. Hein. Enfin, c'est vrai que je ne suis pas très loin de Bordeaux, 100 quelques mètres. C'est à mi-chemin, si tu veux, pour les déplacements, c'est à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse. Voilà. Bon, il y a pire hein, comme premier poste, mais c'est une ville qui fait 7500 habitants. C'est une sous-préfecture de 7500 habitants, à la limite de la forêt des Landes d'un côté, de la vallée de la Garonne de l'autre. Bon, c'est une autre vie qui commence. Entre-temps, j'ai découvert... Enfin, je vis avec celle avec qui je me marierai plus tard, ma première femme, donc elle-même, c'est une Parisienne invétérée, je la transporte contraint et forcé dans ce milieu. L'expérience pédagogique va me donner, je peux dire, ce que j'en attendais. Hein. Et c'est-à-dire que, bon, c'est pas toujours facile, hein, t'imagines, mais enfin, je suis content vraiment de ce que j'arrive à faire avec mes élèves. J'ai des retours qui sont quand même très très souvent, tu vois, très très exaltants pour moi. Quelques élèves, tu vois, qui me témoignent de ce qui s'est passé, quelque chose dans la rencontre avec la philosophie. Tout ça, je crois, est bien. Je suis un jeune prof quand même, je pense, enthousiaste, et ça se sent hein, tout de suite. Les élèves perçoivent ça. Et ça ne fait que renforcer, on peut terminer là-dessus si tu veux, ça me confirme dans cette idée quand même que la philosophie, comme discipline non seulement institutionnelle, tu vois, mais comme discipline personnelle, comme parcours, la philosophie a intimement à voir avec la transmission et la pédagogie. Pas la pédagogie au sens des manuels de pédagogie dont on n'a rien à foutre et dans lesquels on ne trouve que des choses qui n'ont rien à voir avec la pédagogie, mais tu vois ce que je veux dire, avec la transmission et la formation de la jeunesse et le fait de lui insuffler quelque chose. Je pense que la philosophie est inséparable de ça, parce que elle forme les esprits, si tu veux, pour le dire de façon très banale, mais pour toi aussi. Pour toi qui aspire à la philosophie, c'est une expérience, je pense, irremplaçable que de comprendre, et de comprendre pratiquement, c'est pas de la spéculation, que pour transmettre une pensée, quelque chose, pour transmettre ton savoir, il faut effectuer un travail sur ton savoir fondamental. C'est-à-dire que la transmission est quelque chose qui te transforme toi et qui transforme ta pensée, tu vois, en même temps qu'elle essaye de transformer les autres. Voilà, donc je reste, tu vois, à 69 ans et après quand même quelques années de retraite, je reste vraiment dans l'âme, disons, je ne sais pas s'il faut dire un enseignant, un professeur...
Ben, je pense que je l'ai entendu, je pense que tous ceux qui viennent d'écouter ton témoignage en sont, j'en suis persuadé, convaincu. Ça leur donnera, j'en suis tout aussi convaincu, le désir d'écouter ta conférence sur les stoïciens et, s'ils le souhaitent également, puisqu'ils en ont la possibilité, d'écouter la première conférence, si ça n'avait pas déjà été fait, sur Épicure. Peut-être ce n'est qu'à nous revoir, que nous aurons peut-être l'occasion de développer autre chose lors d'un prochain entretien et lors peut-être d'un prochain retour dans l'année 2018-2019. En tous les cas, je pense que le lien que nous avons créé devrait se poursuivre à travers le temps. En tous les cas, c'est quelque chose que je souhaite tout particulièrement. Je te remercie Alain et bonne journée à tous.
Interview. Okay.